France Inter, Ali Badou, le 7-9.
Le grand entretien avec Alexandra Ben Saïd au lendemain des vœux du président de la République. Il nous fallait un président. Notre invité l'est donc, président, cofondateur de Mediapart. Bonjour Edwy Plenel.
Bonjour, bonne année.
Bonne année à vous. Je ne vais pas vous demander si vous avez été convaincu par le président de la République, mais quelle lecture politique faites-vous de ces vœux ?
C'est le bunker institutionnel de ce régime présidentiel dont nous ne sortons pas, qui est un très vieux monde. L'homme campe droit sur ses deux jambes dans ce palais de l'Élysée. Et au fond, qu'est-ce qu'il nous dit ? La seule chose qu'il nous a dit, débattons tous ensemble de la ligne que j'ai décidé tout seul de ne pas changer. Donc, il ne répond pas à l'exigence sociale qui est portée par le mouvement des Gilets jaunes et par d'autres. Et il ne répond pas surtout à la demande profonde de changement démocratique qu'il y a dans ce pays, sur laquelle il avait été élu et à laquelle il a tourné le dos.
Et dont on va parler, mais vous avez dû être sensible aux mots d'Emmanuel Macron quand il dénonçait les manipulations, les intoxications qui entament la confiance démocratique.
On va en parler parce qu'il a employé deux mots, vérité et dignité. On va peut-être évoquer ensuite l'espoir, mais vérité et dignité, si vous prenez le cas d'école de l'affaire Benalla, vous voyez un palais de l'Élysée, une présidence de la République qui est l'adversaire farouche de la vérité depuis le début de cette affaire et qui ne respecte pas vraiment la dignité puisqu'elle protège quelqu'un qui a fait des actes symboliquement graves, frappé des opposants politiques, des manifestants le 1er mai, comme le symbole de toutes les violences policières illégitimes qui se sont répandues depuis.
Alors justement, vous avez anticipé les vœux, vous avez souhaité une bonne année à Mediapart au président de la République avec ce rebondissement dans le feuilleton Benalla, quand on apprenait que Alexandre Benalla avait bénéficié de passeports diplomatiques, il les avait utilisés notamment pour des voyages d'affaires en Afrique. Il a dit aussi à Mediapart, Alexandre Benalla, qu'il avait continué à échanger avec Emmanuel Macron jusqu'à la veille de Noël. Et puis, il y a eu la réaction de l'Élysée hier au cours de ce qu'on a découvert, un échange WhatsApp entre votre journaliste Fabrice Arfi et le directeur de la communication de l'Élysée, qui lui a dit « Monsieur Benalla se venge de son licenciement pour faute grave en entretenant tout un faisceau de contre-vérités et d'approximations ». Fin de citation. C'est parole contre parole, Edwy Plenel.
Non, justement, Sylvain Faure, le responsable de la communication de l'Élysée, a confirmé l'existence de ces échanges. De la même manière que le communiqué retranscrit par l'AFP, la déclaration plus officielle de l'Élysée, ne nie pas l'existence de ces échanges. Ces échanges ont eu lieu et d'ailleurs...
Vous les avez vus les échanges
bien sûr que si
sur la messagerie Telegram entre Emmanuel Macron et Benalla ?
Si, comme toujours, on nous pose toujours à Mediapart, qu'est-ce qu'on a vu en plus de ce qu'on a écrit ?
Mais c'est-à-dire, est-ce que vous retranscrivez une parole, celle d'Alexandre Benalla, ou est-ce que vous retranscrivez des messages que
nous
vous avez
vus ? Nous avons toutes les raisons, dans notre tradition d'enquête, de croire, de penser, d'affirmer que Alexandre Benalla dit vrai quand il dit qu'il a échangé régulièrement avec le président de la République et ses proches, qu'il en a gardé les traces, que la plupart de ces échanges se sont faits sur la messagerie Telegram.
Donc vous ne les avez pas vus ?
Encore une fois...
Non mais ma question est précise. Donc vous ne les avez pas vus. Vous avez toutes les raisons de...
Je vous réponds toujours la même chose, vous savez.
Exact.
Je vais vous répondre comme dans l'affaire Cahuzac. Dans l'affaire Cahuzac, on nous posait qu'est-ce que vos preuves. Les preuves étaient sous vos yeux. Encore une fois, quand nous pourrons publier ces messages, nous les publierons. Ces messages existent, pour dire les choses très clairement.
Et donc, ils vous les publierez
existent.
Un jour.
Ils existent et ils font très peur à la présidence de la République. Tant que nous ne pouvons pas les publier, nous ne les publions pas. Mais encore une fois, cette interview, et je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que cette interview est un élément d'un puzzle. Cette affaire, depuis le début, c'est toutes sortes d'éléments.
Elle était plutôt une déflagration qu'un puzzle.
Oui, mais la déclaration de M. Benalla vient en complément de toutes sortes d'éléments. Encore une fois, c'est quoi cette histoire ? Au départ, on a quelqu'un qui commet des actes illégitimes, on est bien d'accord.
Oui.
Ils sont deux. Ils sont deux.
Les violences,
ce sont les violences du 1er mai,
place de la Contrescarpe.
L'Élysée, il faut rappeler tout ça, parce que vous savez, on est dans l'information en continu et on
bien
oublie.
Sûr.
L'Élysée couvre pendant deux mois. C'est l'autruche, ils se disent, espérons que les vidéos ne sortent pas et qu'ils ne soient pas identifiés. Nous sommes d'accord, les vidéos sortent, une première dans Le Monde, une deuxième à Mediapart, des violences répétées. pas seulement une fois. Deuxièmement, on le sait aujourd'hui, l'Élysée va essayer, et c'est au cœur de l'instruction judiciaire, de couvrir cela quand ça sort. C'est l'affaire des vidéos de la préfecture de police. Le porte-parole de l'Élysée, qui a depuis disparu, on ne l'entend plus, dit n'importe quoi, et il est contredit le jour même par le préfet de police et le procureur de la République, qui eux, déclenche la justice, car la justice n'était pas en route à ce moment-là. Ensuite, du coup, on se sépare de Monsieur Benalla. On se sépare de Monsieur Benalla, mais la garde des Sceaux, je voudrais juste rappeler ça, la garde des Sceaux dit « ce n'est qu'une affaire individuelle », alors que le vrai problème, pression sur la justice pour les
juges d'instruction, il a été licencié pour faute grave.
C'est de savoir s'il n'est pas soutenu derrière. Et qu'est-ce que nous révélons depuis ? C'est qu'en fait, Monsieur Benalla n'a pas couper le cordon avec l'Élysée, qu'il est toujours en relation avec le président.
Ça, c'est
et ses
pas répréhensible.
Mais, Pénel. Mais c'est un. Excusez-moi.
Qu'on comprenne.
Mais pour comprendre, vous avez quelqu'un qui est mis en examen pour violence volontaire, qui a vraiment atteint l'image de la présidence de la République. Et que nous dit le président de la République ? Et nous documentons le fait que ce mot voulait dire qu'il continuait à le protéger. Il dit « Je réclame l'indulgence pour M. Benalla ». A-t-il demandé l'indulgence pour les lycéens et les manifestants ?
Donc Edoui Plenel.
Tout récemment. Et je voudrais terminer juste. Et l'affaire du passeport diplomatique, écoutez du peu. Ce monsieur garde deux passeports diplomatiques. Et hier, que nous dit le Quai d'Orsay grâce à nos révélations encore ? Oui, au fait, début novembre, on a essayé de les déconnecter, de les débrancher, ces passeports diplomatiques. Mais ça n'a pas marché. La culture du résultat macronienne ne marche pas vraiment dans l'affaire Benalla.
Donc ce que vous nous dites, Edoui Plenel, là, il y a eu les violences, il y a eu les passeports. Là, maintenant, il y a les échanges dont on dit qu'ils ont ou n'ont pas existé.
Mais ils ont existé. Encore une fois, je vous coupe. Encore une fois, hier, la présidence de la République, que ce soit dans sa déclaration à l'AFP ou que ce soit Sylvain Faure, confirme l'existence d'échanges réguliers.
Ah non, il dit, je ne dis pas qu'il y a eu des échanges réguliers, en tout cas sur aucun des sujets évoqués par Alexandre Benalla, c'est ce que dit le Sylvain Faure.
Il ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'échanges.
Mais il dit qu'il y a eu, oui, Alexandre Benalla qui a pu écrire au président de la République.
Vous savez, quand on veut faire, ça fait quand même quelques décennies que je fais ce travail, quand l'Élysée veut vraiment démentir comme un tapis de bombe, ils savent faire. Là, ils ne font pas.
Donc ce qui manque, vous parliez de puzzle tout à l'heure. En réalité, c'est finalement pas tant les passeports que le silence qui est intéressant. Quelle est la pièce manquante du puzzle finalement, pour vous ? Quelle clé êtes-vous en train de chercher ?
D'abord, c'est pas du silence, c'est de la protection. Monsieur Benalla, et vous le voyez bien dans ses voyages, dans une certaine forme d'assurance de soi, il se sent protégé. Et s'il parle à Mediapart, je souligne, en confiance à Mediapart, c'est qu'il se dit « je vais parler là ». Là où ils ont fait des révélations qui m'embêtent, qui l'auto-incriminent. L'affaire, il y a une instruction judiciaire, une enquête préliminaire plutôt, qui est déclenchée sur les passeports. Pourquoi il parle ? C'est parce qu'il sent que là, il est peut-être en train d'être lâché. Qu'une partie.
Donc il menace.
Une partie de l'entourage élyséen, je dirais les hauts fonctionnaires, parce qu'il y a cet épisode d'un bruit sur une présence de Monsieur Benalla le 9 décembre en pleine affaire des Gilets jaunes à l'Élysée, qui est démenti par l'Élysée, mais que Monsieur Benalla ne dément pas tout à fait lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que des hauts fonctionnaires commencent à dire « ça suffit là, on se met en péril ». Et ils essayent de le dire à la garde rapprochée de Monsieur Macron. Alors vous me posez la question, quelle est la pièce manquante ? La pièce manquante, c'est le pourquoi.
Comment un homme seul fait dérailler à ce point l'Élysée.
Pourquoi ? Et pourquoi pas n'importe quel homme seul ? Quelqu'un qui était garde du corps et membre du service d'ordre du Parti Socialiste il y a peu d'années, qui a 27 ans, qui n'est pas vraiment un homme d'affaires richissime. Or là, on le voit faire des affaires en à peine quelques semaines, quelques mois, ayant quitté l'Élysée. Quelle est la clé ? Je vous rappelle une révélation qu'a fait Mediapart dans tout ce puzzle, qui a été trop peu regardée, 15 jours avant le passeport diplomatique. Vincent Crase, l'autre acolyte que l'on voit dans les violences du 1er mai, en juin 2018. Donc, ils sont à l'Élysée. Il est toujours à l'Élysée et Vincent Crase a toujours ses entrées à l'Élysée. Il est permanent pour la sécurité du parti présidentiel. Eh bien, il touche 300 000 euros d'un oligarque russe proche de M. Poutine et qui, par ailleurs, selon certaines justices européennes, est lié à la mafia russe, pour la protection de ce Magomedov, qui est un oligarque russe très important, richissime. Vous vous rendez compte, à l'abri de l'Élysée, en même temps se passent des affaires de sécurité privée avec des intérêts étrangers. Il y a beaucoup de questions à se poser derrière tout ça. Le pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Et
c'est ce que vous êtes pourquoi en train de rester, chercher.
J'ai une vieille habitude. J'ai une vieille habitude dans ces cas-là. Quand on est au cœur de la politique et qu'on voit en effet dans quel monde évolue aujourd'hui M. Benalla, nous avons documenté ses liens avec Alexandre Joury, homme qui est recherché et réclamé par la justice française dans le dossier Sarkozy et qui est à Londres. M. Benalla a installé une partie de ses quartiers maintenant à Londres. Eh bien, je pense que dans ces cas-là, follow the money.
Il faut suivre l'argent en bon français. J'aimerais vous livrer cette citation qu'on trouve sur le blog de Jean-Luc Mélenchon à propos de ces révélations de l'affaire Benalla. Voilà ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Il disait « Les révélations des médias ne sont que rarement le fruit d'enquêtes, investigations, il met les mots entre guillemets, et autres grands mots dont l'égout décore ses terminaux. Il s'agit presque toujours de règlements de comptes entre secteurs concernés ou de pur et simple achat d'informations, c'est-à-dire de corruption organisée par les médias dans l'État pour se damer le pion les uns les autres dans la course au buzz. L'affaire des passeports diplomatiques de Benalla entre dans l'une ou l'autre de ces catégories, Edwy Plenel. »
Monsieur Jean-Luc Mélenchon, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux, raconte en l'occurrence n'importe quoi et fait surtout une pédagogie antidémocratique qui est irresponsable dans la bouche d'un responsable politique, quelle que soit sa casquette. Je préfère...
Pourquoi antidémocratique ?
Parce que nous travaillons comme des journalistes avec nos règles de vérification, de recoupement. Nous n'achetons jamais d'informations. Nous ne sommes pas au cœur de la corruption. Au contraire, nous la révélons. Sans presse libre et indépendante, on ne saurait rien de tout cela. On n'y aurait aucune de ces vérités, ne serait sur la place publique. Vérité qu'exploite politiquement M. Mélenchon. Je préfère beaucoup ce qu'a dit Manon Aubry, la tête de file aux élections européennes de la France Insoumise, qui a... dès qu'il y a eu nos révélations sur le passeport diplomatique, fait l'éloge de la nécessité d'une presse libre et indépendante, indépendante de tout pouvoir politique et économique. Et donc, ce que dit, je le répète, M. Mélenchon, est une pédagogie désastreuse dans les temps actuels.
Le journalisme d'investigation, c'est plus ou moins facile sous Emmanuel Macron que sous d'autres présidents, puisque vous en avez connu plusieurs, un long passé.
Non, c'est toujours la même chose, c'est du travail surtout. Il faut se dire, moi je préfère dire journalisme d'enquête, et je pense que c'est l'ADN de Mediapart, parce que l'enquête pour moi fait partie du métier, et investigation, bon c'est un terme, une façon anglo-saxonne plutôt de dire les choses, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pour ça que je poie l'image du puzzle, c'est du travail, on recoupe. On trouve un élément, on en trouve un autre. On essaye de faire comprendre une réalité. C'est pas la chasse au scoop, c'est essayer de comprendre. Ce qu'on comprend là, c'est que M. Benalla est soutenu par la présidence de la République et que ce n'est pas normal.
Vous définissez le métier, faire comprendre la réalité. Et pourtant, c'est pas toujours évident. Et pourtant, on a vu ces relations parfois tendues entre des médias, des journalistes et des gilets jaunes. Il y a de la méfiance, voire de l'hostilité qui s'est exprimée contre des rédactions, des journalistes insultés, malmenés, parfois agressés, des manifestations devant BFM, France Télé, Radio France samedi dernier. Est-ce que vous comprenez qu'une partie de la colère se tourne aussi contre les journalistes, Edwy Plenel ?
Ah, je le comprends depuis le début. J'ai toujours vécu avec ça. Il y a une critique de notre profession qui rejoint la crise démocratique, la critique de la représentation. On critique les élus qui représentent le peuple et on critique aussi les médias qui donnent, autre sens du mot représentation, la réalité. Évidemment, c'est le témoignage d'une sorte d'impuissance démocratique, d'un manque de respiration démocratique. Je rappelle que pour moi, le droit de savoir, la liberté de dire, dont nous ne sommes que des agents dans notre métier, c'est un droit plus fondamental que le droit de vote. Si je ne sais pas ce qui se passe, si je ne sais pas tout ce qui est d'intérêt public, je peux voter à l'aveugle. Vous parliez du Brésil, nous y sommes aujourd'hui. Je peux voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Donc, il faut rappeler ça et défendre ça. Alors, pourquoi il y a cette contestation ?
Oui.
Parce que, et vous connaissez mon combat depuis longtemps, le journalisme de commentaires, le journalisme d'opinion, le journalisme que je dis gentiment de blablabla, occupe trop occupe trop notre profession. Notre premier métier, à l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde a reconquis le droit d'exprimer son opinion. On n'a pas besoin de passer par nous pour dire ce qu'on pense. On est gilet jaune, on peut s'exprimer directement sur les réseaux sociaux, on peut défendre sa cause. Donc, qu'est-ce que demandent les gens ? C'est que d'abord, on soit utile. Et être utile, c'est faire ce que fait Mediapart, apporter des informations d'intérêt public.
Et c'est ce qu'on essaie de faire. Vous n'êtes pas les seuls.
Vous n'êtes pas les seuls.
Non, on n'est pas les seuls.
Il n'y a pas que Mediapart. Il y a quand même.
Je défends Mediapart.
Vous avez raison.
Vous défendez Mediapart. Est-ce que vous défendez BFM, par exemple ? Est-ce que vous défendez les chaînes d'info continue dans cette séquence-là ?
Je ne défends pas. Bien sûr que je suis solidaire de tous les journalistes qui sont victimes.
Mais
non, je n'ai pas dit de mais encore.
Le mais arrive.
C'est vous qui dites un mais.
J'anticipe.
Je suis solidaire. La haine du journalisme. La détestation en bloc d'une profession, des travailleurs de l'information qui peuvent être à BFM, à France Inter, au Figaro, au Monde, partout où ils sont, la haine du journalisme est une haine de la démocratie. La critique du journalisme, elle est légitime, elle est utile, elle est nécessaire. Et de fait, et la radio le sait puisqu'elle a été le premier média participatif, la critique, nous vivons avec. Aujourd'hui, excusez-moi de parler de Mediapart, nous sommes un journal participatif dans le club de Mediapart. On peut critiquer Mediapart.
Et nous sommes
Mediapart.
Une radio participative. D'ailleurs, il y a des questions d'auditeurs qui vont arriver dans un instant. Mais je veux reprendre cette question de la défiance envers les journalistes. C'est ce qu'on peut suivre, par exemple, sur le fil Twitter de Vincent Glade, le journaliste de Libération, sur les gilets jaunes et les médias. Et il décrit ce fantasme très répandu chez des gilets jaunes de hackers, de pirates informatiques qui pourraient pirater les télés et diffuser en direct la vérité. Il y a des captures d'écran où on lit la chose suivante. Il faudrait avoir un hacker sous la main pour prendre les chaînes de télé en live entre 20h et 21h et on passe nos messages et la vérité des événements, qu'ils voient tous la vérité. C'est la question du rapport à la vérité qui est intéressante.
Oui, mais parce que encore une fois, dans ce débat-là, actuellement, les mauvais signaux sont d'en haut. Qu'il y ait une colère populaire, qu'elle soit parfois aveugle, parfois excessive. Moi, je ne la juge pas d'en haut, je la prends en compte. Et je la prends en compte parce
mais
que je
pense... Mais
vous
la jugez aussi parfois.
Non, parce que je dis que, attention, aujourd'hui, la détestation du journalisme, vous avez cité un responsable politique, mais à Mediapart, on s'amuse en prenant Monsieur Sarkozy, Monsieur Manuel Valls, il a dit il y a un an, il faut que les gens de Mediapart rendent gorge, Plenel et ses sbires, d'autres disent Plenel et ses pantins, le chef des pantins, enfin, je ne personnalise pas, je dis juste que cette violence contre le journalisme, cette violence contre un droit fondamental, de gauche, de droite, elle est au cœur.
Et nous l'avons vécu aussi à Radio France, et notamment la cellule d'investigation.
Donc, il y a un vrai problème. Bien sûr, il y a un vrai problème de pédagogie démocratique. Ce que, en clair, la démocratie, c'est pas simplement tous les 5 ans voter pour quelqu'un qui rafle tous les pouvoirs. On est au cœur du débat sur la présidence Macron.
Il y a aussi un problème
Macron.
De relation à la vérité, Avi Plenel.
Comment ?
Il y a aussi un problème de relation à la vérité, d'enfermement dans des bulles de réseaux sociaux. On peut en parler, on peut le dire.
Oui, mais les réseaux sociaux sont aussi le lieu où on peut montrer qu'un politiquement. Ce sont aussi des
les
lieux de mémoire.
Aussi.
Ce sont aussi des lieux de mémoire. Le numérique... Contrairement à l'image que donnent les chaînes d'infos en continu, avec tout le côté blablabla d'opinion.
Il n'y a pas eu c'est que ça. Aussi... Regardez BFM, ils n'ont pas eu que du blabla. Enfin, je ne vais pas défendre BFM.
Non, mais je dis,
ils ont ouvert largement leur micro, leur plateau aux gilets jaunes.
Entendez bien. Ce que je veux dire, c'est que dans le moment actuel, j'ai dit tous mes principes de solidarité démocratique sur le fond. Mais si nous ne nous interrogeons pas sur notre profession, si nous prenons un côté bunkérisé, nous aussi, comme si nous étions solidaires de ceux qui ne répondent pas à la crise démocratique. Ce pays, excusez-moi d'aller au bout, ce pays est sous cloche. Nous sommes dans un archaïsme total. Vous vous rendez compte, dans le monde du 21e siècle, où la montre tourne sur le climat, sur des catastrophes économiques, écologiques, etc., on est toujours, et c'était le sens des vœux présidentiels d'hier, dans les mains d'un seul pour 5 ans. Comment est-ce possible ? Où est la démocratie délibérative ? Où est la démocratie participative ? Où est la possibilité de contrôle ? Où sont les contre-pouvoirs ?
Donc vous attendez avec impatience la lettre sur le grand débat national.
Mais non, le grand débat national, il a dit, il ne faudra pas qu'il change la ligne. Mais qu'est-ce que c'est ? J'organise un débat et je dis, vous n'avez pas le droit de remettre en cause les choses dans ce débat. Qu'ont-ils fait, y compris sur les questions dont nous parlons ? pour l'instant une loi sur les fausses nouvelles en période électorale, une loi sur le secret des affaires pour nous empêcher de révéler des choses. Ont-ils fait une grande loi fondamentale sur le droit de savoir et la liberté de dire qu'appelle la révolution numérique? Se sont-ils posé les questions de fond d'extension de la démocratie? La démocratie ne doit pas être un bunker et une crispation. Il faut au contraire la revitaliser dans le moment actuel. Et c'est ça que demandent les gens. Alors ils sont en colère, pourquoi? Parce que ça ne se fait pas.
Il faut que vous écoutiez les gens au standard.
Pardon. Les gens au standard, et moi en l'occurrence, avant de donner la parole à Elisabeth, mais comment est-ce qu'on parle justement des gilets jaunes? Comment parler par exemple de l'homophobie, de l'antisémitisme, du complotisme qu'on a tous pu constater? Parce que quand on en parle, on est accusé de braquer le projecteur sur des minorités. Ne pas en parler, ce serait faire l'autruche. Comment est-ce qu'on fait, Edwige Pennel, pour trouver la juste mesure?
Mais on montre la diversité. Il faut faire très attention à l'effet de loupe. Moi, je maintiens par la profondeur et la durée des reportages que nous avons faits à Mediapart que ce qui s'est passé et qui est tout à fait détestable, le fait que l'extrême droite, qui est à demeure dans notre pays depuis 33 décennies et qui fait des scores très importants d'élection à l'élection, qu'elle soit présente dans ce mouvement, qu'elle essaye de diffuser ses idées anti-égalitaires, cette chasse au bouc émissaire, à l'étranger, à l'immigré, aux juifs, à l'arabe, aux musulmans. Évidemment que ça existe, mais ce n'est pas la réalité massive des gilets jaunes. Nous, on a montré plein de cas où, comme dans une lutte sociale, quand il y en a un qui tient des propos racistes, on le met de côté. Donc là aussi, attention à l'effet de loupe en boucle, où on est comme ça, où tout d'un coup on donne des leçons d'en haut et on ne va pas assez voir la réalité du terrain. Je redis, c'est un mouvement social. Quand vous faites une grève dans une entreprise, vous ne demandez pas aux gens « est-ce que t'es un facho ou pas ? Est-ce que t'es d'accord ?» pour l'augmentation de salaire qu'on va réclamer. Et c'est dans la lutte que les choses se passent. Et là, il y a quelque chose de très grave et qui devrait interpeller toutes les gauches. Où sont-elles, les gauches? Elles regardent d'en haut ce mouvement, elles sont attentistes ou suivistes, au lieu d'y aller y défendre exactement ce qu'il faut défendre contre l'extrême droite. Les valeurs d'égalité. C'est un mouvement pour l'égalité. Eh bien, il faut aller défendre ces valeurs-là.
Puisqu'on vous en dit l'importance de ce mouvement, question d'Elisabeth sur l'application France Inter, et elle parle justement de l'affaire Benalla. N'y a-t-il pas des problèmes plus importants à traiter plutôt que ce rideau de fumée destiné à discréditer le pouvoir? Est-ce que vous maintenez que l'affaire Benalla est une affaire d'État, Edwige Pennel, quand on voit justement l'ampleur de ce mouvement des Gilets jaunes?
Bien sûr que c'est une affaire d'État. Vous savez, toutes ces affaires commencent comme des faits divers, mais ces faits divers sont éclairants. Ils sont éclairants d'un dérèglement de la présidence. Ils sont éclairants d'un pouvoir personnel. Ils sont éclairants d'un sentiment d'impunité quand on est au cœur de la présidence. Donc c'est une pédagogie justement de ce pouvoir personnel qui est contesté par le mouvement social qui souhaite réinventer une démocratie différente. Comme entre nous, Monsieur Cahuzac, c'est un cas personnel d'évasion et de fraude fiscale. Mais à partir de là, il y a une pédagogie globale qui va se faire sur cette richesse détournée des nations, qu'est l'évasion fiscale. Et ça va donner le parquet financier et ça va donner la haute autorité. Je voudrais juste souligner sur Benalla, un moment que j'ai trouvé très grave, c'est quand le président de la République, comme un chef de bande, est venu rassembler ses parlementaires, a dit « il y a qu'un responsable, c'est moi ». Et qu'a-t-il fait là?
Il a assumé la responsabilité.
Et il a surtout cassé le processus parlementaire. Il a demandé aux députés En Marche d'interrompre la commission d'enquête que certains veulent rouvrir à juste titre. Je rappelle que le Parlement, quand on est élu, que l'on soit En Marche ou pas, on est élu pour faire la loi et pour contrôler l'exécutif. L'expression que nous employons parfois dans les médias, majorité présidentielle, devrait être bannie. Vous êtes député de la nation. Même si vous avez été élu pour M. Macron, vous êtes chargé de contrôler M. Macron. Eh bien, soyez au rendez-vous de votre mandat. C'est là. Vous êtes là, au pied du mur, et nous attendons que le Parlement fasse son travail.
Edwige Pennel, vous qui l'avez interviewé le 15 avril dernier, comment est-ce que vous l'avez trouvé hier? Est-ce que c'était le même hier soir?
Ça, je ne sais pas, j'étais pas tout près, hein, c'est qu'une image. Mais le 15 avril, pour moi, ça, je le dis,
c'était avec au Palais de Chaillot avec Jean-Jacques Bourdin et la Tour Eiffel qui scintillait derrière et un président jupitérien.
Eh bien, pour moi, c'est un événement le 15 avril. Vous savez, on a interviewé deux fois Monsieur Macron pendant la présidentielle. Là, On le voit un an après, on fait au fond l'entretien d'évaluation d'un an de présidence. Mmh. Et là, j'ai vu quelqu'un qui disait « circuler, il n'y a rien à voir bon. ». J'ai vu quelqu'un qui était enfermé. je vous rappelle la première de mes questions.
On va en
Votre mouvement,
là.
C'est pas en marche, c'est en force. Et la suite, vous le voyez.
Et
la suite, c'est votre président, le jeune président de Mediapart, Vincent Verzat, qui est casquette sur la tête, youtubeur.
Partager, c'est sympa. Et c'est les vœux de Mediapart.
Voilà, il invite à être lucide, solidaire et radicaux pour qu'en 2019, on renverse la table. Merci Edoui Plenel, bonne année encore. À suivre dans le carrefour du 7-9, l'édito média de Sonia De Villers, la revue de presse de Frédéric Pommier et le billet d'Alex Vizorek.